French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning, y'all.
Cet épisode a reçu le soutien d'Agora Expat. Vivre aux États-Unis nécessite une assurance santé adaptée. Mais trouver la solution parmi toutes les offres peut s'avérer être un vrai casse-tête. Budget, besoins, franchise, difficile de tout combiner. Ne perdez plus votre temps, Agora Expat sélectionne et compare pour vous les meilleures solutions d'assurance santé. Offres personnalisées, accompagnement sur mesure, devis et conseils gratuits, Agora Expat est le courtier référent de la communauté francophone expatriée aux États-Unis. Retrouvez plus d'informations sur agoraexpat.com. Et maintenant, place à l'épisode.
Ah non, bien sûr, bien sûr. Mais c'est sûr qu'il y en a des galères. Hein. Franchement, il y en a tout le temps. Mais c'est aussi comme ça qu'on devient autonome et qu'on grandit. C'est savoir trouver des solutions tout seul, de pas se dire à papa et maman qui vont m'aider à trouver quelque chose. Enfin, de se découvrir soi, de découvrir les autres, de découvrir d'autres cultures, d'avoir une curiosité qui renaît tout le temps en fait. Je pense.
Bienvenue sur French Expat, le podcast. Le podcast des voyageurs expatriés francophones du bout du monde.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents pour ce nouvel épisode de French Expat, le podcast. French Expat, le podcast, c'est le podcast qui donne la parole aux expats francophones des quatre coins du monde. Notre but, c'est de raconter des histoires singulières d'aventuriers des temps modernes. On vous propose ainsi chaque semaine, tous les lundis, un nouvel épisode pendant lequel nous discutons avec nos invités de l'expatriation qu'ils vivent ou qu'ils ont vécu. Moi c'est Charlotte et je vous parle depuis Brooklyn, New York. Mon invité du jour a quitté Paris pour poursuivre ses études à Dublin, en Irlande. En arrivant sur place, Victoire ne connaît rien à ce pays. Elle a en tête des images de paysages verts, très verts et de beaucoup de pluie. Chaque mois après son arrivée, elle accepte de témoigner entre micros et nous raconte son installation et le début de sa nouvelle vie en Irlande. Bonjour Victoire.
Bonjour Charlotte.
Merci d'avoir accepté d'être sur le podcast aujourd'hui pour ce nouvel épisode.
Avec plaisir.
Alors Victoire, parlons un peu de toi. D'où est-ce que tu viens et d'où tu nous parles aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, je suis à Boston, chez ma sœur. Mais sinon, je suis de Paris et j'habite à Dublin, en Irlande.
Tu habites à Dublin. Tu es là-bas pour quelle raison ?
Pour les études. Je fais un double diplôme et du coup, j'ai fait 2 ans à Paris et là, je suis pour 2 ans en Irlande, du coup.
Et ça fait combien de temps que t'es arrivée à Dublin ?
Ça fait 4 mois.
D'accord. Alors, tu es originaire donc de France ?
C'est ça, tout à fait. Ouais.
Tu es française. De quelle région à la base ?
Moi, de base, je suis née à Brest, mais j'ai vécu toute ma vie à Paris, donc voilà.
D'accord. Ok, parisienne pure souche.
C'est ça.
Et du coup, tu décides il y a quelques mois de partir faire tes études, enfin la suite de tes études à l'étranger.
Ouais, c'est ça. En fait, j'ai candidaté à un double diplôme après mon bac et on m'a proposé du coup de faire 2 ans donc à Assas à Paris et ensuite de partir faire 2 ans en Irlande. Enfin, c'était une université partenaire du coup qui était à Dublin. Et du coup, j'ai accepté.
Du coup, tu fais un diplôme de quoi exactement ?
Je fais droit français et common law. Donc, un peu le droit de tous les pays anglophones, en fait.
Vraiment. Et alors, du coup, ce diplôme te permet donc là de faire tes études à Dublin. Mais il y avait-il une autre ville où tu aurais pu aller faire la suite de tes études ou c'était vraiment cette ville-là ?
Non, avant, en fait, le diplôme, c'était avec Londres. Et après pour certaines raisons ça a changé et donc quand j'ai commencé mon cursus on m'a dit que ce sera à Dublin. Donc voilà, j'ai pas vraiment eu le choix de la destination pour le coup.
D'accord. Tu t'imaginais partir vivre à Dublin ? Parce que
pas du tout. Ça m'attirait même pas à la base honnêtement. Ouais.
C'est vrai ? Qu'est-ce qui te au départ tu te disais non pas Dublin, pas l'Irlande, t'avais un a priori dû à quoi ?
Déjà, j'y étais jamais allée, donc je sais pas. Enfin, ça me paraissait être un peu un endroit pas paumé, mais enfin voilà quoi.
Comme on imagine, pluvieux, très vert. Oui. Ah oui, au niveau pluie.
Exactement. Et ouais, c'était la température aussi. Moi, franchement, j'ai besoin de soleil et c'est vrai que j'appréhendais un petit peu. Mais bon, je me suis habituée. Franchement, on peut s'habituer. Mais au début, ça a été très dur. J'étais malade tout le temps. Ouais.
Et t'es arrivée il y a 5 mois, donc fin de l'été en plus.
C'est ça. Bah, je revenais du Maroc. En fait, j'avais passé tout mon été, voilà, au soleil. Et du coup, ouais, c'est la transition a été difficile.
C'est ça. La transition a dû être très dure. 2 mois de soleil, de chaleur, et t'arrives. Donc début septembre, c'est ça à peu près ?
Je suis arrivée ouais toute fin août, c'est ça exactement.
Ouais. Et il commençait déjà à faire froid, à pleuvoir ou ça allait ?
Bah franchement ouais, bah moi du coup j'ai quitté donc le Maroc sous 30-35. J'ai fait un petit crochet par Paris du coup et donc pareil, c'était la période où il faisait 30 degrés, j'arrive là-bas et il fait 14.
Mmh, ah oui.
Ouais.
Dur.
Enfin, on se dit, ces températures-là en août, ça va être quoi après en fait ?
Et alors, ça a été quoi après ?
Après ouais, ça a un peu stagné, mais bon franchement, enfin, j'étais en écharpe en septembre parce que bah moi déjà en plus je suis grosse fragile par rapport à tout ce qui est les maladies machin. Du coup, fallait vraiment que je me protège. Et non, bah j'étais en écharpe tout le mois de septembre et en octobre c'était encore pire. On avait des alertes, c'était drapeau orange niveau température de l'université qui nous envoyait des mails. Après il y a eu une grosse tempête. Enfin bref. C'est passé à la télé, machin, et bon, maintenant, ça va un peu mieux, apparemment.
Ah oui.
Mais, ouais, c'est pas évident.
Et alors, Dublin, capitale de l'Irlande.
C'est ça, ouais, la République.
Je me trompe pas. La République, voilà, de l'Irlande. Et il me semble que l'Irlande est divisée en deux.
Exactement, ouais.
Irlande du Nord.
Ouais, avec Belfast, du coup. Et,
avec Belfast, d'accord.
J'y suis allée, d'ailleurs, pour une journée. C'était très intéressant.
Ouais. Et la ville en elle-même, Dublin, qu'est-ce que tu peux nous en dire ?
Bah franchement, c'est une ville. Bah déjà, je m'attendais pas à ce que ce soit beau. Honnêtement, j'étais partie, donc du coup, j'y étais jamais allée, j'avais jamais vu de photos. Enfin, vraiment, je suis arrivée comme ça. Et je me suis. Bah, du coup, il y a une de mes sœurs qui m'a accompagnée pour mon déménagement. Et franchement, on était très surprises de trouver ça vraiment hyper mignon. Enfin, franchement.
C'est une vieille ville ?
Relativement, mais il y a quand même des bâtiments modernes en fait. Donc.
D'accord. Ouais.
Puis ce qui est bien, c'est que bah comme il pleut, donc le ciel est souvent gris, mais les bâtiments sont un peu colorés, il y a des architectures sympas, donc du coup ça plombe pas forcément l'atmosphère.
Ouais, il y a un beau contraste entre les deux.
C'est ça.
D'accord. Ouais. Et alors donc du coup, Dublin, tu y es pour les études ou comment tu t'organises, où est-ce que tu vis? Je crois savoir que tu vis en coloc avec 4 Chinois, c'est bien ça?
Ouais, tout à fait. bah du coup en gros faut savoir que c'est une ville où il est très difficile de se loger.
Ah bon? Pourquoi?
Et ouais, bah il y a une grosse crise du logement en fait.
D'accord.
Et beaucoup de problèmes aussi de SDF, etc. Et du coup, il y a en fait, par rapport à cette crise, il y a beaucoup d'arnaques donc sur les réseaux sociaux, sur même des sites officiels de logement. Et donc du coup, on m'avait dit si tu veux partir trouver ton appart, il faudrait y aller en personne, machin. Et donc moi, en mai, on me propose de me trouver un logement sur le campus. Donc du coup, bah j'ai dit oui. Je me suis dit comme ça, j'ai pas besoin de me prendre la tête cet été. Mm-hmm. Et du coup, j'avais aucune idée de avec qui j'allais être. J'avais juste que c'était un appartement de 6 personnes. Et du coup, je me suis retrouvée avec une fille qui était avec moi à Paris et 4 Chinois que je connaissais du coup pas du tout.
Ah oui, quand tu arrivais, tu connaissais la fille et personne d'autre. Et voilà, c'est débrouille-toi, adapte-toi.
C'est ça.
Bon, déjà, il y a quand même la chance. C'est l'Université de Paris qui vous propose de vous mettre en relation avec celle de Dublin pour le logement, ou c'est à toi de faire les démarches pour avoir ce logement-là?
Bah alors, l'Université de Paris, ils ont pas été très réactifs, honnêtement. On a eu rien pour nous préparer au départ, vraiment aucune information, rien. Et au dernier moment, ils se sont mis quand même en contact parce que c'est eux qui gèrent notre double diplôme.
D'accord.
Et ils nous ont dit on peut vous avoir une liste prioritaire pour les logements sur le campus. Et du coup, on était presque toutes intéressées. Enfin, on a presque toutes pris cette option-là.
Ah oui.
Parce que c'est plus simple.
Bah un gain de temps et j'imagine aussi d'être sûr sur quoi tu tombes, dans quel logement.
C'est ça, c'est ça. Puis même, enfin, de se dire que, par exemple, on a eu des problèmes de plomberie, de se dire que, on fait un truc de.
Une espèce de devis.
Ouais. Et le truc, c'est pris en charge, c'est pas à moi, je suis pas responsable. Enfin, non, franchement, c'est rassurant, quand même.
Oui, t'as pas à toi à contacter un plombier pour faire les réparations. Ouais. D'accord. Alors, du coup, avec ces 4 Chinois, parce que bon, du coup, avec la française, j'imagine qu'il n'y a pas trop de choc culturel.
Non, franchement, non. Voilà.
Avec les quatre Chinois, comment ça se passe? Parce que c'est ça qui est intéressant de se dire que tu pars t'expatrier dans un pays que tu connais pas, mais alors pas du tout. Quand t'arrives, ouais, tu ne connais rien de l'Irlande et de Dublin. Et en plus, tu te retrouves pas avec des Irlandais, mais avec des Chinois. Comment ça se passe?
Bah, du coup, déjà au début, en fait, ils m'avaient contacté sur Facebook avant que j'arrive. Et du coup, bah, franchement, je trouve ça marrant. Enfin, parce que du coup, bah, mes autres copines qui sont en coloc sur le campus, il y a des gens de plein d'autres pays, mais moi vraiment j'avais quatre Chinois et pas d'autres nationalités. Et du coup bah ça m'a fait rire, mais enfin c'était très sympa par message et tout, on avait discuté un petit peu. Et du coup après quand je suis arrivée là-bas, il y en avait deux du coup qui étaient sur place et moi je suis arrivée avec ma sœur.
D'accord.
Et vraiment adorable. Je me suis très bien entendue avec eux, enfin très ouvert d'esprit, machin. Enfin directement on a commencé à sortir, découvrir la ville ensemble. On a fait des excursions le week-end ensemble.
Vous êtes dans le même cursus universitaire ou pas du tout?
Pas du tout. Ils sont plus âgés que moi et ils font pas du tout la même chose.
D'accord. Et du coup, le relationnel se passe bien. Vous découvrez un peu la ville ensemble, mais j'imagine que il y a quand même un gros choc culturel. Il doit pas y avoir les mêmes façons de faire.
Non, clairement. Enfin, surtout. Enfin, du coup, c'était délicat parce que c'est devenu des amis, mais en même temps, c'est vrai qu'il y avait même des manières de. Parce que du coup, on partage la cuisine. Mm-hmm. Et c'est vrai que on a des habitudes culinaires qui étaient pas les mêmes, des habitudes de propreté qui étaient pas les mêmes, etc. Et du coup, c'était même compliqué de leur dire à la base parce que quand c'est devenu des potes, c'est pas évident.
Oui, mais... de leur dire écoute, moi je préfère que ça soit comme ça.
Il y avait des moments où ma cuisine me dégoûtait, donc du coup à un moment j'ai dit voilà.
Stop.
Il y en avait deux autres qui invitaient, mais tout le temps des gens chez moi. Et du coup, mon salon, il y avait tous les jours au moins 10 personnes que je connaissais pas. Enfin bref, du coup, j'étais...
T'étais plus chez toi, en fait.
Contre, mais c'est quand même un peu du respect pour les personnes avec qui on vit, quoi.
Oui, c'est ça. Tu te sentais plus chez toi. T'étais...
Ouais.
D'accord. Et ça, c'est parce que tu penses que c'est culturel pour eux d'inviter du monde ou qu'ils n'ont même pas pensé que ça pouvait te gêner, en fait?
Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Après, enfin, eux, du coup, ils invitent que des amis, qui sont de la même origine qu'eux. Mm-hmm. Et je sais pas, j'imagine que vu que, ils sont en majorité chez moi, peut-être qu'ils sont plus à l'aise, de venir chez moi plutôt que d'aller chez les autres. Je sais pas si c'est très clair.
D'accord. Ce que j'ai dit, oui.
mais voilà. Ouais, je sais pas. Je sais pas.
Et alors, du coup, comment dire, tes colocataires, vous avez donc passé de bons moments, vous échangez régulièrement ensemble, vous échangez en anglais, j'imagine.
Ouais, c'est ça. Pour faire simple, donc du coup, il y en a deux à qui je parle pas trop. Enfin, voilà, juste on se croise, mais on se parle pas trop. Après, j'ai un coloc qui a changé d'appartement. Mais on reste toujours en contact et du coup c'est ce coloc là et l'autre fille qui m'a accueillie avec qui j'échange très régulièrement, même là on est en vacances et on se donne des nouvelles souvent.
D'accord.
Enfin,
c'est devenu une seconde famille.
Ouais, c'est devenu vraiment des bons potes. Ouais.
Et Dublin, c'est ta première expatriation?
Non, du coup avant ça fait très longtemps maintenant, mais en 2011, je suis partie au Canada avec ma mère.
Au Canada.
Ouais.
Et après tu dis que tu n'aimes pas le froid.
Mais au Canada, faut savoir que l'été, il fait très très chaud. Ouais. Et surtout au Canada, j'ai pas eu le choix, forcément ma mère elle m'a dit on part là-bas, j'étais pas là pour discuter.
T'avais quel âge en 2011?
J'avais 11 ans du coup. Donc
Ah oui. Ouais. Ah oui, donc t'avais pas le choix en fait, tu viens et point barre.
Exactement.
Et tu es restée combien de temps au Canada?
2 ans et demi.
D'accord. Donc à 11 ans, ta maman te dit on part vivre au Canada, donc où exactement?
Je suis partie à Montréal.
Donc francophone.
Les deux, franchement les deux, parce qu'on est dans un quartier nous plutôt anglophone, donc puis même enfin en fait j'avais des potes qui étaient de tellement de pays différents que on parlait pas forcément français entre nous.
D'accord. Du coup à 11 ans tu pars vivre donc à Montréal, pays francophone et anglophone, et comment tu t'adaptes? Parce que c'est une question que je me pose vraiment. À 11 ans, comment on fait? Comment on vit cette expatriation?
C'était pas forcément comment dire? Surtout qu'en fait, ma mère, elle m'a dit, donc, en milieu d'année, j'avais déjà repris les cours, c'était en novembre, elle m'a dit, on part. Et donc, du coup, c'était un peu, en cours d'anglais scolaire, donc c'est pas évident même pour s'intégrer,
Oui, par la suite.
C'est ça. Puis en plus, aussi le fait de partir que avec ma maman, enfin, moi, j'avais mes frères et sœurs qui étaient pas avec moi, alors que, on est une famille nombreuse et qu'on a toujours été quand même très proches entre
tous
nous.
Tous ensemble?
D'accord. Pas vraiment tous ensemble, on a toujours été très proches et du coup, c'était pas simple.
Puis j'avais aussi mon papa, du coup, qui était pas avec moi. Donc, ouais. Du coup, au début, c'était pas forcément simple parce qu'on n'avait pas de famille sur place. Mais bon, bah, progressivement, on s'adapte et j'en garde un très, très bon souvenir.
Ça t'a donné envie de voyager, cette expatriation? C'est ce qui a pu te donner envie de t'expatrier après? D'avoir moins peur, peut-être, de partir?
Honnêtement, sur le moment, bah, enfin, j'étais très contente quand même de rentrer en France parce que ma famille me manquait. Et que voilà, enfin ça fait quand même du bien de rentrer chez soi, mais c'est vrai qu'avec le recul, je pense que oui, c'est un endroit qui m'a appris beaucoup de choses et qui m'a donné envie de d'aller beaucoup plus vers les autres, de découvrir de nouvelles cultures. Ouais, parce que c'est une mentalité tellement ouverte que ouais, je sais pas, ça donne vraiment envie d'être dans un mood très positif, en fait, si je peux dire ça comme ça.
C'est ça, je pense qu'il y a deux façons de vivre une expatriation. Soit tu prends le plus de positif possible et ça te fait grandir, soit tu n'y arrives pas, et ce qui peut tout à fait, enfin, c'est possible, hein, de ne pas se sentir bien en expatriation et de vouloir rentrer. Mais comme tu dis, ça permet de s'ouvrir au monde et aux autres.
Je pense que dans tous les cas, il y a des moments difficiles, hein, ça c'est sûr. Oui. Même quand on en garde un bon souvenir comme moi, il y a eu des moments qui ont été très durs. Mais après,
bien sûr, même quand tout va bien, il y a des fois, c'est compliqué d'être loin de la famille et des amis.
Ouais. Ça c'est sûr, ouais.
Alors du coup, donc vous restez 2 ans au Canada, puis vous rentrez en France. Mm-hmm. Tu as donc à peu près 13 ans et demi, 14 ans, c'est ça?
C'est ça, ouais, exact.
Et tu as quel âge, si c'est pas indiscret?
Là, j'ai 19 ans.
Donc, même pas 5 ans plus tard, tu repars en expatriation, et cette fois toute seule.
C'est ça, ouais.
Ouais, t'as quand même... tu as du cran, on peut le dire, hein. Parce que je pense que c'est quand même... Faut le faire, de partir seule à 19 ans, dans une ville qu'on connaît pas. Donc, chapeau.
Bah, merci, mais j'appréhendais honnêtement avant de partir. Hein. Enfin, j'avais peur de... Ouais, bah, de...
C'est vrai?
Parce que même, enfin, avec ma mère, du coup, on a quasiment toujours vécu que toutes les deux, et du coup, j'appréhendais vachement de.
D'accord.
Bah, de plus vivre avec elle, parce que bah, c'était une habitude, et voilà. Mm-hmm. Et aussi, bah, moi, je suis quelqu'un qui voit tout le temps ses amis, enfin, vraiment, tous les jours. C'est impératif, et du coup, bah, ça m'a fait, enfin, ils étaient tous à Paris, et ça m'a fait très bizarre de partir et de plus avoir ça. Donc.
De plus les avoir au quotidien.
Ouais, clairement.
Donc, ta plus grosse peur, c'était quoi, au moment de partir?
Ouais, la solitude, je pense. Ça, c'est un truc que ouais, j'avais beaucoup de mal avec ça, donc.
La solitude de la famille, des amis, ou plus de te retrouver seule avec toi-même? Parce que il y a une différence de pas voir ses amis pendant quelques temps, ou la famille, de faire un, bon, tu les vois un peu moins parce qu'on est occupés les uns les autres, et puis de se retrouver toute seule avec ses propres envies aussi, et de prendre conscience de ce qu'on veut et de ce qu'on est.
Ouais, je pense que c'est un peu un mélange des deux, parce que je pense que le fait de voir mes potes, justement, ça m'empêchait parfois de me retrouver seule avec moi-même, comme tu dis, et du coup, ouais, c'était confortable, on va dire. Et donc, le fait de partir, c'est sûr que ça met un peu une claque. Mais...
Et alors, comment tu vis maintenant au quotidien? Ça fait 5 mois, t'as eu le temps de t'habituer?
Bah, alors, en fait, le truc, c'est que moi, je suis pas en Erasmus, c'est un double diplôme. Donc, en gros, les Erasmus, et bah, quand ils arrivent, on leur présente plein de monde qui sont aussi en Erasmus. Et nous, bah, non. Donc,
Devez vous débrouiller tout seul?
Ouais. Vraiment, enfin, vu qu'on est très peu, quand on est arrivé, enfin c'est limite si les gens ils savaient qu'on était là, enfin je parle de l'administration.
Oui, donc, bien sûr.
Du coup c'était pas évident, surtout bah en plus on arrive en L3, donc bah les gens ils se connaissent déjà, enfin bon voilà.
Oui, depuis le début de la licence.
C'est ça. Mais du coup bah voilà, donc j'ai eu mes colocs quand même qui bah eux aussi, donc ils arrivaient de Chine, et je me suis dit mais enfin pour eux ça a dû être tellement plus dur, enfin ils avaient jamais quitté la Chine avant de venir. Donc
le choc culturel est peut-être encore plus important.
Clairement, eux, pour moi, il faut du courage, vraiment. C'était leur première fois en Europe et tout, enfin voilà. Sinon après j'ai rencontré quelques autres personnes, bah un peu par hasard, on va dire, et j'ai appris du coup à prendre du temps pour moi, à me poser. C'était un truc que j'arrivais pas à faire avant, je voulais toujours sortir, toujours machin. Et là, du coup, ça m'a fait du bien, donc me poser, faire des choses que moi j'aime, prendre du temps un peu pour moi. Ça a pas été simple au début, mais c'est vachement agréable.
Mais tu y arrives maintenant.
Ouais, vraiment.
Et c'est-à-dire prendre du temps pour toi. Tu prends le temps de réfléchir à ce que t'aimerais faire,
ouais,
à ce que t'as envie de visiter.
Ouais, des choses comme ça, des choses bêtes, mais même, enfin... Bah déjà regarder ce que je veux faire, bah parce qu'en gros avec mon cursus j'ai ma L3 et mon master 1 là, du coup, que je vais faire, qui sont qui sont décidées, on va dire, pour moi. Et par exemple, je sais pas.
Ah oui, là tu es en L3.
C'est ça.
Tu restes 2 ans en Irlande, donc L3 et ton M1. Et à la fin de ton M1, tu dois faire donc ta soutenance de mémoire et tu décideras où est-ce que tu veux la faire.
Non, bah je dois choisir où je fais mon M2 en fait. C'est plus ça.
Oui, c'est ça, ton M2.
Du coup, mais enfin après c'est pas obligatoire de faire un M2. Mais je me dis bon bah enfin du coup voilà par exemple des choses comme ça j'ai commencé à y réfléchir regarder un petit peu d'autres choses, des possibilités de stage, regarder un petit peu aussi parce qu'en fait c'est très facile de partir en week-end donc en Irlande ou au Royaume-Uni, regarder un petit peu où est-ce que je pourrais voyager, enfin des choses comme ça qui prennent un peu de temps si on veut faire ça bien, et du coup c'est agréable d'avoir du temps pour soi.
Ouais, pour y réfléchir et se poser en fait réellement avec à ce que tu as envie de faire par la suite.
Ouais.
Et du coup, donc tu arrives à Dublin, vous n'êtes pas les nouveaux étudiants mis en relation avec des personnes pour vous guider dans la ville, vous guider dans le parcours universitaire. Ouais. Comment tu as réussi à t'intégrer?
Bah alors du coup au départ donc il y avait toutes les grosses soirées intégration des étudiants internationaux, je sais pas quoi et tout, enfin les trucs en boîte là, bref, bah du coup j'y suis allée. Mm-hmm. Honnêtement, c'était pas terrible hein, franchement, c'est pas l'endroit où on va rencontrer du monde. Je l'ai vite compris. du coup bah au début, j'étais un peu mal parce que bah je voyais même, j'avais des potes qui étaient en Erasmus ailleurs pour qui ça se passait hyper bien, enfin ils rencontraient des gens tout le temps et tout. Du coup, c'était un peu difficile. Et après, en fait, je sais pas, je suis tombée sur un truc. Du coup, j'ai fait aussi des recherches sur un peu les associations qui avaient, associations étudiantes qui avaient dans ma fac.
D'accord.
Et je suis tombée sur un truc où, en gros, il fallait postuler pour participer à des cours sur 6 semaines où c'était sur la social justice. Et du coup, c'était un peu un groupe de réflexion organisé par une association de ma fac et une association humanitaire irlandaise. Et du coup, j'ai candidaté et je m'attendais pas du tout, mais du coup, j'ai eu ma place. Et en gros, là, c'était hyper agréable parce qu'il y avait des gens, mais vraiment de tous les horizons. Donc,
c'est là que tu as rencontré vraiment d'autres communautés. Ouais, tu as pu échanger.
C'était vraiment un plaisir. Il y avait des Indiens, des Slovènes, c'est hyper agréable. Puis aussi c'était vachement ça me mettait beaucoup plus à l'aise de me dire que j'étais pas la seule, ou l'anglais c'était pas ma première langue, j'étais pas la seule qui était pas née en Irlande, enfin non, c'était vraiment une très très belle expérience.
C'est fini, ces 6 semaines sont terminées?
Ouais, ça y est.
D'accord. Et du coup, tu peux repostuler à une autre association ou à un autre cours comme celui-ci pour rencontrer à nouveau d'autres personnes et puis participer à la vie associative de ton université, en fait.
Bah ça, en fait, du coup, par la suite, en gros, c'était un peu une formation. Et du coup, on m'a délivré un diplôme. Et ensuite, du coup, bah c'est moi qui vois ce que je veux faire, mais il y a pas tellement d'autres formations qui peuvent s'y apparenter en ce moment. Mais du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté celle qui organisait nos séances.
D'accord.
Et je lui ai expliqué un petit peu mon profil, ce que moi j'aimais faire, parce que j'avais eu un petit peu d'expérience dans l'associatif en France. Et du coup, j'avais notamment travaillé avec les réfugiés et demandeurs d'asile. Et du coup, elle m'a mis en contact avec une association irlandaise. Et donc là, normalement, quand je rentre en Irlande, je vais pouvoir commencer à travailler un petit peu à leur côté, donc pour l'intégration des réfugiés. Voilà.
Parce que en Irlande, il y a beaucoup de réfugiés, de demandeurs d'asile.
Oui, quand même, ouais, ouais.
Dublin, notamment.
Ouais, en fait, c'est là qu'a été signée la dernière convention sur la dernière convention européenne sur le droit d'asile. Et donc c'était une cause à laquelle j'étais sensible par rapport à mon expérience passée. Et pendant mes 6 semaines de formation, il y a une dame qui avait demandé l'asile avec sa petite fille qui est venue nous faire une séance et témoigner. Et je me suis dit que c'était important de faire quelque chose à ce niveau-là. Ouais.
Et de véhiculer la formation, parce qu'on n'est pas forcément très bien informé, effectivement. Ouais.
Ouais, c'est ça.
Alors donc du coup, ton diplôme de droit, te permettra de faire quoi par la suite ?
Honnêtement, pas mal de choses, je pense, dans le sens où le droit, c'est un domaine qui est pas facilement exportable à la base. Donc, si on a un diplôme de droit français, c'est-à-dire qu'on va pratiquer en France par la suite, et c'est un peu, comment dire, c'est comme ça et pas autrement.
Et c'est-à-dire que si tu, quand en étant juriste ou avocate, par exemple.
Bah ouais, en fait, enfin, je veux dire, les personnes qui n'ont pas eu la chance d'étudier à l'étranger et qui ont fait que du droit français, c'est très très compliqué de ensuite pouvoir avoir une expérience professionnelle à l'étranger.
D'accord.
Et du coup, c'est pour ça que ma formation, je trouve, c'est intéressant parce que on fait du droit civil donc français. Donc c'est ouais, le système de droit civil et du common law qui est du coup un système complètement différent. Et c'est hyper utile donc dans le monde d'aujourd'hui d'avoir un petit peu
ouais,
des
d'avoir
deux
bagages.
C'est ça. Après, c'est vrai que du coup, c'est un diplôme. En général, c'est vachement pour droit des affaires, etc., pour les gros contrats, pour les entreprises. Moi, c'est pas du tout ce que je veux faire.
Tu aimerais être dans l'humanitaire par la suite ? Continuer ?
Ouais, bah, j'ai cette piste-là. Mais du coup, bah, pour avoir peut-être un impact juridique, enfin, pour pouvoir mettre un petit peu le contenu de ce que j'ai pu apprendre en cours au service de causes
qui tiennent à cœur,
qui me plaisent. Ouais. Voilà. Ou alors sinon bah m'orienter sur du droit pénal.
D'accord.
Ça c'est le droit pénal plutôt international du coup dans ce cas-là pour bah mettre à profit ma formation.
OK. Et voilà. Et alors donc du coup, tu te vois après Dublin, après l'Irlande, partir ailleurs ?
Ouais, alors en fait à la base quand je suis partie, je me suis dit mais OK, enfin dès que je peux rentrer en France, je rentre et dans deux ans vraiment je rentre à Paris, c'est sûr. Et en fait maintenant plus tellement parce que je me dis déjà un an c'est dans une vie objectivement c'est pas grand chose donc au pire je pars à l'étranger ça se passe pas très bien c'est un an c'est pas très grave et surtout il y a des opportunités assez incroyables qu'on n'a pas forcément en France qui existent à l'étranger donc je me dis pourquoi pas continuer à me former
c'est vrai.
Là où les opportunités pour moi sont meilleures et ensuite retourner chez moi.
C'est vrai que c'est une belle formation, c'est un beau parcours de se dire que tu as la chance d'apprendre beaucoup de choses d'un pays différent et de pouvoir continuer par la suite grâce à cette formation de continuer en fait ce que tu veux faire.
Non, c'est ça.
Avec l'expérience que tu auras eue.
Non, c'est ça. Bah après, je pense pas que je resterai sur l'Irlande, mais c'est vrai que non, c'est. Enfin là, déjà, je vois que même j'ai beaucoup grandi mentalement. Enfin, à vivre là, ces cinq mois passés à Dublin.
Et tu penses que c'est tu le conseillerais de partir étudier à l'étranger ?
Ah ouais, carrément.
Pour nous, si on a des auditeurs jeunes qui se disent ouais pourquoi pas moi aussi je voudrais partir, qu'est-ce que tu leur conseillerais ?
Ah non, carrément. Enfin c'est parce que enfin ouais c'est une manière bah du coup voilà bon d'acquérir des compétences ailleurs, ça c'est une certitude, mais surtout de se découvrir soi, de découvrir les autres, de découvrir d'autres cultures. Enfin. Moi, du coup, j'ai d'autres potes qui sont partis en Erasmus, simple, on va dire, donc pas dans le cadre d'un double diplôme, et qui en gardent une super expérience. Donc après, il y a toujours les arguments de oui, mais si je veux faire tel master, il y a les directeurs de master qui disent que c'est plus simple de valider à l'étranger, du coup, ils nous prennent pas parce qu'on est en Erasmus. Mais après, c'est aussi un choix, c'est de se dire, est-ce que on veut un directeur de master qui est fermé d'esprit comme ça et qui laisse pas l'opportunité à quelqu'un qui a voulu voir autre chose ?
Tout à fait.
Donc, c'est vrai que moi, du coup, c'est un choix que j'assume totalement. Et je me dis bah je préfère poursuivre mes études avec quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde que moi quoi. Et non vraiment c'est quelque chose que je recommande à tous les étudiants. Enfin pour moi c'est
si,
essentiel.
S'ils ont l'opportunité de foncer même si ça peut faire peur au départ de quitter famille et amis, de le faire.
Carrément. Enfin moi j'ai une copine qui est partie. Elle est partie en Argentine pendant 6 mois.
Waouh.
Elle a pris un mois pour visiter seule l'Argentine après son Erasmus. Enfin pareil. Ça l'a marqué. J'ai une amie qui a aidé en cours pendant un an en Erasmus. Enfin, vraiment, mais enfin, à chaque fois, elles en parlent de manière hyper positive. Et c'est là qu'on fait des amitiés durables aussi.
Oui, même s'il y a des galères parfois d'être seule, d'être loin de la famille, il y a toujours ce côté « Waouh, quelle expérience !» Je l'ai fait, en fait, de se dire « J'ai réussi à faire ça toute seule. »
Exactement. Ah non, bien sûr. Mais c'est sûr qu'il y en a des galères. Hein. Franchement, il y en a tout le temps.
Ah oui,
mais,
c'est sûr.
Mais c'est aussi comme ça qu'on devient autonome et qu'on grandit. C'est savoir trouver des solutions tout seul, de pas se dire à papa et maman qui vont m'aider à trouver quelque chose. Enfin,
c'est vrai. Voilà, t'as pas le choix, faut que tu te débrouilles.
Ouais, c'est ça.
Et alors du coup, une envie de. Donc tu dis que tu as déjà visité Belfast. Tu y étais avec tes collègues, des copains que t'as rencontrés.
Ouais, je suis partie bah donc pas longtemps après, enfin vraiment je venais d'arriver, mais j'avais les cours qui avaient pas commencé. Je me suis dit bon, en vrai
c'est le moment,
autant partir un petit peu. Et donc du coup bah vu que c'est le début, qu'on s'installe machin, le budget est un peu serré. Et en fait on a trouvé des bus. Il y a une compagnie de bus en Irlande qui propose des allers-retours pour 20 euros. Donc du D'accord. coup, bah, je me suis dit en vrai, on part tôt le matin, on rentre tard le soir, ce sera déjà bien, et puis on y retournera si besoin. Donc je suis partie avec ma coloc française. C'était franchement top. Enfin du coup, on a pris le bus vers 8h et c'est 2h30 de route, un truc comme ça. Et franchement, mais bon, c'est vrai qu'on y est allé en plein milieu des négociations du Brexit, mm-hmm. parce que de base, du coup, ça devait être le 31 octobre. Et enfin donc c'est vrai que c'était un peu tendu à Belfast. Enfin la semaine juste avant, il y avait une voiture qui avait explosé, machin. Du coup, les parents de ma coloc étaient un peu pas rassurés. Moi, les miens, ils étaient allés pendant la guerre civile. Du coup, ça va. mais ouais. mais non, franchement, ils étaient plutôt détendus. Mais c'est vrai que enfin, c'était pas la destination vraiment conseillée à ce moment-là. Mais on a eu en fait à un moment, on voulait voir un peu la ville, faire un tour. Et du coup, on s'est mise dans les bus là, comment ça s'appelle, les sightseeing. Et
ah oui, les bus avec ouais. le toit ouvert pour pouvoir observer
ça,
la ville.
Elle avait vachement ouais. d'a priori sur ça. Et franchement, la guide, elle était mais incroyable. Enfin, en fait, elle avait vécu elle-même du coup les Troubles, donc la guerre civile. Et elle nous a tout raconté, elle nous a mis dans tous les quartiers. Enfin, vraiment, c'était passionnant.
C'est une ville qui est encore empreinte de justement oui. de toute cette guerre civile
il y a quelques années. C'est pour ça que c'était pas safe du coup le moment où on y est allé. Mais je regrette pas. Franchement, c'était c'était incroyable. Enfin, moi, je suis quelqu'un, j'adore l'histoire contemporaine et franchement, c'était mais passionnant.
D'accord. Alors du coup, ta plus grande fierté? Si on résume tout ça, c'est vraiment d'avoir osé et d'être partie et de te débrouiller toute seule.
Ouais, je pense, et d'avoir une curiosité qui renaît tout le temps en fait, je pense. Ouais.
Une curiosité qui renaît tout le temps, c'est joli comme phrase. Du coup, tu t'ouvres toujours plus à la nouveauté.
Ouais, c'est ça en fait. Enfin, parce que par exemple, à un moment, je vais être curieuse de quelque chose, du coup, je vais m'y intéresser, je vais me renseigner, je vais aller voir, je vais voilà. Et une fois que c'est fait, de se dire non, il y a toujours plus à apprendre sur ça ou
c'est
sur
ça,
autre chose.
C'est ça, tu rebondis d'un sujet à l'autre.
C'est ça.
En Victoire, tu participes à certains articles sur le blog de French Expat et tu en as créé un justement il y a quelques jours.
C'est ça, ouais.
Qui s'appelle, si tu connais le titre de ton...
C'est 3 conseils pour s'intégrer dans un nouveau pays.
Et pour ceux qui ne seraient pas encore allés lire cet article, est-ce que tu peux nous dire juste... les 3 grands conseils sans développer en fait.
Oui, alors du coup donc en premier lieu je pense que l'important c'est de venir en repérage pour voir où on met les pieds. Deuxièmement, D'accord. c'est de s'intéresser à l'autre personne, à toutes les autres personnes qui vont être du coup dans la même ville ou le même pays qu'on a choisi pour l'expatriation. Et donc mm-hmm. du coup, comment le faire en fait, c'est ça aussi que j'explique. Enfin, à quelle occasion on peut rencontrer d'autres personnes. Et troisièmement, c'est de respecter les différences culturelles, donc de respecter les habitudes des autres et pourquoi pas de partager les siennes pour arriver du coup à un peu un échange en fait.
C'est ce que tu fais avec tes colocs par exemple? Tu leur apportes de la culture française?
Ouais, franchement, ouais. Ouais, trop mignon. Enfin, quand je suis arrivée, il y en a une qui m'a offert un éventail de Chine. Ma coloc française, elle est de Toulouse, elle est rentrée chez elle et elle avait ramené des spécialités de Toulouse. Mm-hmm. Pour la fête nationale chinoise, on avait fait un gros dîner chez nous. Très sympa. Et nous, par exemple, de temps en temps, on va faire des crêpes ou des petits trucs comme ça, mais qui font plaisir à tout le monde, quoi.
C'est ça, en fait, qui permettent de faire une bonne, de partager de bons moments et d'avoir une bonne ambiance au sein de votre coloc.
Ouais, c'est ça.
C'est super. Bah, écoute, je trouve que tu as déjà, à 19 ans, un très beau parcours parce que, comme on l'a dit juste avant, c'est pas forcément évident de s'expatrier à 19 ans, de partir seule, même si c'est dans le cadre des études. Donc tu sais que tu peux quand même te retourner auprès de l'université, d'avoir du soutien quelque part en cas de gros gros coup dur. Mais faut oser. Moi je te tire mon chapeau.
merci.
Je sais pas si à 19 ans, quand j'étais en études, j'aurais J'aurais osé.
Ah bah, ça me fait plaisir, c'est gentil, mais en soi, c'était vraiment parce que aussi c'était intégré dans le cursus et du coup, bah, je me suis dit, bon, bah.
Tu n'avais pas le choix? Dans tous les cas, fallait que tu partes?
Non, j'aurais pu rester à Paris, mais du coup, bah, mon diplôme n'aurait pas forcément été le même, mais du coup, je me suis dit, bon, bah, en vrai, c'est bête de passer à côté, quoi.
Oui, c'est une chance.
Et surtout, enfin, ce que j'apprécie vachement, donc tu disais par rapport à se tourner vers l'université quand on a un coup dur. Et franchement, ce que j'apprécie vachement, c'est que en France, moi j'étais à Assas, c'est l'université où il y a vraiment pas du tout de prise en charge à ce niveau-là. Au contraire, il y a une grosse pression. Alors que du coup, là-bas, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour la santé mentale, vraiment beaucoup de choses, pour être sûr que les étudiants sont à l'aise, que non, c'est vachement agréable. Enfin, ça m'a frappée directement parce que du coup, je venais un peu de l'opposé et
j'ai l'impression que c'est quand même le côté très anglo-saxon de, et puis américain, ça, de prendre soin de des gens avec qui tu travailles et de tes partenaires. Et c'est vrai que.
Mais par exemple.
Vas-y, pardon, je te coupais.
Non, vas-y, je t'en prie.
C'est vrai que bon, moi, mes études, ça remonte à un petit moment maintenant, mais on avait ce sentiment de, il fallait toujours produire plus, être performant. Mais sans aide, quoi. C'est si on n'y arrive pas, bah tant pis pour vous et débrouillez-vous.
Ah, ça c'est vraiment la mentalité à la française, c'est sûr. Mais alors que là-bas, bah j'ai plusieurs exemples. Déjà, un truc qui m'a frappé directement, c'est que dans chaque cabinet de toilette, dans chaque bâtiment, il y a un stickers avec des numéros à appeler si ça va pas.
Ah oui.
Mais
d'accord.
Donc des numéros, ça peut être sur plein de sujets. T'as des hotlines LGBT, des trucs par rapport donc du coup bah les hotlines pour le suicide, plein de choses qui sont du coup spécialisées. Là-bas, il y a pas de pression, enfin de course au diplôme en fait comme on peut avoir en France.
Oui.
Par exemple, la présidente d'une des plus grosses societies, du coup association étudiante de là-bas, c'est l'équivalent du BDE. En gros, elle, quand elle a pris ses fonctions, ils lui ont dit que c'était comme si elle prenait un an off des études où elle se dédiait que à ça.
Et d'accord.
C'est une fierté, ça dérange personne que de prendre un an pour faire de l'associatif, pour faire quelque chose.
C'est alors même reconnu, nous, en fait.
Ouais, alors que pour nous, c'est vraiment, faut avoir son diplôme le plus rapidement possible. Enfin, c'est un peu ça, quand même.
C'est vrai que, je sais pas si ça fonctionne pareil, enfin, comme ça, en Angleterre et dans les pays anglophones de l'Europe, mais États-Unis, en discutant avec des personnes dont les enfants vont ou commencent à penser à l'université, c'est même bien, des fois, d'avoir un background sur associatif, comme tu dis, d'avoir déjà travaillé, fait des stages, s'être impliqué dans la vie de ta ville ou de l'université avant même de pouvoir commencer.
Carrément, l'extrascolaire est beaucoup plus valorisé. Enfin, moi, pour rien te cacher, j'ai le projet après mon M1, enfin, du coup, à voir, mais soit je vais faire un M2 à l'étranger, soit je prends une année où je fais quelque chose, enfin, je fais associatif à l'étranger, par exemple. Et donc ce projet-là te prend une année de césure, on va dire. Enfin, du coup,
qui est reconnu en fait cette année-là.
En fait, c'est ça. Enfin, moi, du coup, pour moi, ce moment-là, il est plutôt idéal parce que c'est le moment où j'ai encore un an après pour commencer à travailler. On n'est pas dans la vie active, donc c'est plutôt facile. Mais c'est vrai que en France, si je veux retrouver un M2 après et que je dois justifier que j'ai passé un an comme ça à faire à faire mes expériences à l'étranger, ils vont me dire oula.
C'est ça, en fait, ils vont te dire mais pourquoi on te prend.
Au contraire, je passe pour quelqu'un de curieux, enfin vraiment c'est tout l'inverse, quoi.
Oui, en France tu fais une pause parce que tu veux travailler ou être bénévole dans une association. Quand tu reviens pour ton M2, on va te dire mais pourquoi je te prendrais toi alors que j'ai quelqu'un qui sort de son M1 et qui est toujours dans le parcours et n'a pas fait de césure, comme tu dis.
Ouais, c'est ça. Ils prennent ça pour de la flemme en fait en France.
C'est ça.
Pour moi, c'est tout l'inverse.
Ouais, c'est une expérience en fait. Ouais.
C'est le fait de se dire dans ma vie peut-être que j'aurais pas d'autres moments comme ça où je serais aussi libre de partir quelque part, enfin go quoi.
Ouais, tu as raison. C'est vraiment ce qu'on peut te souhaiter, alors que à la fin de ton M1 tu puisses repartir ailleurs et mettre à profit toute cette belle expérience que tu auras vécue en Irlande.
Ouais, j'espère.
Et pour finir, Victoire, nous aimons bien demander à nos invités trois lieux qu'ils recommanderaient à nos auditeurs de la ville ou du pays dans lequel ils sont expatriés. Donc pour toi, quels seraient les lieux, restaurants, musées, peut-être, bars à visiter à Dublin ou en Irlande?
Donc les trois endroits que je recommanderais sur Dublin, donc premièrement le centre-ville, qui est super sympa, très animé, souvent avec des chanteurs dans les rues. Après, je recommanderais le musée de l'émigration irlandaise, qui est très intéressant déjà. L'architecture, c'est magnifique et vraiment surtout très interactif, hein, même pour les enfants, etc. Enfin, franchement, c'était vraiment sympa. Et puis, ce qui est bien, c'est que donc c'est dans un bâtiment tout en verre et il y a plein de commerces, donc pour manger, prendre un café. Enfin, dans tous les cas, c'est un lieu qui est vraiment vraiment sympa. Et enfin, le village de Howth, au nord de Dublin. Donc, on peut faire des randonnées en bord de mer. C'est une espèce de colline et c'est vraiment magnifique.
Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. C'était super intéressant de parler avec toi et d'avoir un avis d'une jeune femme, parce que tu es la première aussi jeune qui participe au podcast et en plus qui est encore étudiante. Donc merci à toi.
Ah bah, avec grand plaisir.
C'était un plaisir de t'avoir.
Ah bah, pareil, c'était très sympa de discuter avec toi.
Merci beaucoup. Et oui, c'est déjà fini, c'est tout pour aujourd'hui. Mais si vous souhaitez retrouver les bonnes adresses de notre invité, rendez-vous sur Mapster, cherchez notre compte French Expat, le podcast tout attaché, et vous retrouverez ainsi toutes les bonnes adresses de tous nos invités un peu partout dans le monde. Merci infiniment à tous d'avoir écouté ce tout nouvel épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, laissez-nous plein d'étoiles et un avis sur Apple Podcasts, c'est le meilleur moyen de nous aider. Et nous voudrions vous remercier pour tous les avis positifs, les revues que vous nous laissez via Apple Podcasts. Cela nous touche énormément, nous fait grandir. Et d'ailleurs, je vais partager avec vous une review qui nous a été laissée par Manouchkina d'Allemagne. Super podcast, je suis toujours impatiente d'écouter les nouveaux épisodes. Bien, merci à toi de nous écouter et nous tous souhaitons pour la suite de nouvelles belles écoutes avec ces beaux portraits d'expatriés que nous vous partageons chaque semaine. Sachez que vous pouvez également nous soutenir en partageant cet épisode avec votre entourage, un futur expat qui se pose plein de questions ou encore un expat qui pourrait se retrouver dans notre communauté. Pour plonger dans les coulisses du podcast, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook et LinkedIn @FrenchExpat le podcast. Pour retrouver tous les liens vers tous les épisodes, les plateformes, les réseaux sociaux, c'est encore plus simple. Direction notre site internet FrenchExpatPodcast.com. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et à bientôt.
Vous venez d'écouter un podcast réalisé par moi-même, Anne-Fleur Andrely, mixé et habillé par Alice Krief et produit par French Morning. French Expat n'est pas le seul podcast de French Morning. Pour retrouver tous les podcasts du groupe, rendez-vous sur frenchmorning.com/podcast. À bientôt.